up, ain't you tired? Trying to strike a chord and it's probably A minor.
Bienvenue à tous, il est 7h00 en temps universel. Nanit Talani en direct de Washington pour vous présenter le monde aujourd'hui. À la une de l'actualité, rupture diplomatique entre le Mali et l'Ukraine. Kiev regrette la décision de Bamako. Désengagement militaire des États-Unis au Niger. La dernière base américaine dans le pays a été fermée. Manifestation réprimée en Ouganda, 14 militants du FDC arrêtés. Washington met en garde contre une escalade au Moyen-Orient après l'assassinat du chef du Hamas en Iran. La diaspora malienne de Côte d'Ivoire inquiète de la sortie du Mali de la CEDEAO. Ce sera à suivre dans nos dossiers du jour.
Les Maliens de la diaspora sont très importants dans l'économie malienne. Donc, si aujourd'hui ils se retirent, que deviendrait la diaspora? C'est la question que nous on se pose en tant que Maliens souvent à l'étranger.
Ce sera juste après la page spéciale consacrée au JO de Paris, mais tout d'abord, le journal. L'Ukraine a dit hier regretter la décision du Mali de rompre ses relations diplomatiques avec elle. Bamako accuse Kiev d'être impliqué dans une lourde défaite de l'armée malienne et du groupe Wagner fin juillet face à des rebelles Touaregs et des djihadistes. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
La décision du gouvernement de transition de la République du Mali de rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine est à courte vue et précipitée, c'est ce qu'a déclaré le ministère ukrainien des Affaires étrangères dans un communiqué. Fin juillet, des dizaines de combattants du groupe Wagner et des soldats maliens ont trouvé la mort, selon les groupes rebelles et les djihadistes, près de la frontière algérienne. Un responsable du renseignement militaire ukrainien, Andriy Youssouf, a sous-entendu que Kiev a fourni des informations aux rebelles pour qu'ils puissent mener à bien leur attaque. Les autorités maliennes ont accusé M. Youssouf d'avoir ainsi avoué l'implication de l'Ukraine dans une attaque lâche, traître et barbare, reprochant à Kiev de soutenir le terrorisme international. La diplomatie ukrainienne a rejeté ces accusations. L'Ukraine dit se réserver le droit de prendre toutes les mesures politiques et diplomatiques nécessaires en réponse aux actions inamicales des autorités maliennes.
L'armée américaine a fermé hier lundi sa dernière base au Niger à Agadez, conformément aux exigences du régime militaire au pouvoir dans le pays. D'après AFRICOM, le commandement militaire américain pour l'Afrique, la coordination se poursuivra entre les forces armées américaines et nigériennes au cours des prochaines semaines afin de s'assurer que le retrait total s'effectue comme prévu. Après le départ de près de 800 soldats début juillet de la base de Niamey, il ne restait dans le pays que quelques 200 éléments américains logés dans cette importante base située à Agadez, dans le nord du pays. En Ouganda, la police a arrêté hier 14 responsables et partisans de l'opposition. Ils ont pris part à une marche de protestation devant l'ambassade du Kenya pour dénoncer la détention et l'expulsion de leurs collègues par Nairobi. Les détails avec Jean-Roger Bion.
La marche a été réprimée par la police et 14 militants du Forum pour le changement démocratique, parti d'opposition ougandais, ont été mis aux arrêts pour participation à un rassemblement illégal. 4 des accusés ont été libérés sous caution, tandis que les autres ont été placés en détention provisoire et reviendront devant le tribunal demain le 7 août. Ils ont tous plaidé non coupables. Tout est parti du 23 juillet lorsque les autorités kenyanes ont arrêté 36 membres du FDC qui s'étaient rendus à Nairobi pour suivre une formation. Ils ont été expulsés vers l'Ouganda, leur pays, où ils ont été accusés de terrorisme la semaine dernière, accusation qu'ils ont niée. Le pouvoir de Kampala est régulièrement accusé d'utiliser des artifices pour réprimer ses opposants. Le président Yoweri Museveni, 79 ans, dirige l'Ouganda d'une main de fer depuis 1986.
En Tunisie, le président Kais Saied, au pouvoir depuis 2019, a officiellement déposé hier sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 6 octobre. Ses rivaux potentiels affirment avoir été empêchés de déposer leur dossier. Les précisions de Michel Joseph.
Kais Saied, 66 ans, a déclaré à Tunis que sa candidature s'inscrit dans le cadre d'une guerre de libération et d'autodétermination visant à établir une nouvelle république. Mais le parcours vers la présidentielle est parsemé d'obstacles pour les rivaux potentiels. Il leur faut le parrainage de 10 parlementaires ou 40 présidents de collectivités locales ou encore de 10 000 électeurs à raison d'au moins 500 signatures par circonscription. La candidature de M. Saïd a été présentée 2 jours après celle, via ses avocats, d'Abir Moussi, une critique virulente du régime, emprisonné depuis le 3 octobre. 3 autres candidats potentiels, l'ancien ministre Mander Zenaidi, l'amiral à la retraite Kamel Akrout et le rappeur devenu homme d'affaires Karim Garbi, ont affirmé que les autorités ont rejeté leur demande de retrait de leur casier judiciaire, un document requis pour tout dépôt de candidature avant le délai fixé au 6 août, c'est-à-dire aujourd'hui même.
Lors d'un appel téléphonique avec le chef de l'armée soudanaise Abdel Fattah al-Burhan, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a réitéré la nécessité pour l'armée soudanaise de participer au pourparlers sur le cessez-le-feu ce mois-ci en Suisse, parrainé par Washington. Le gouvernement soudanais a clairement indiqué que toute négociation avant le retrait total et la fin de l'expansion des forces paramilitaires de soutien rapide ne serait pas acceptable pour le peuple soudanais. Toutefois, le gouvernement a demandé à rencontrer des fonctionnaires américains pour discuter de l'ordre du jour des pourparlers.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont exhorté d'autres pays par la voie diplomatique à dire à l'Iran qu'une escalade au Moyen-Orient n'est pas dans leur intérêt, a déclaré hier un porte-parole du Département d'État. D'après le secrétaire d'État Anthony Blinken, Washington est engagé dans une diplomatie intense, pratiquement 24 heures sur 24, pour aider à calmer les tensions alors que l'on craint une frappe de représailles iranienne contre Israël. Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a été assassiné à Téhéran, la capitale iranienne, la semaine dernière. L'Iran, qui soutient le Hamas, accuse Israël et promet de le punir. Les autorités israéliennes n'ont pas revendiqué l'assassinat. L'assassinat de ce chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, visait à prolonger le conflit à Gaza, à en étendre la portée et compliquera les pourparlers sur la résolution de la crise, a affirmé le président palestinien Mahmoud Abbas à l'agence de presse d'État russe RIA dans des remarques publiées ce mardi. Cela aura un impact négatif sur les négociations en cours visant à mettre fin à l'agression et à retirer les troupes israéliennes de Gaza, a-t-il ajouté. Concernant l'assassinat de M. Haniyeh, M. Abbas estime qu'il s'agit d'un acte lâche et d'une évolution dangereuse de la politique israélienne. Les autorités d'occupation israélienne doivent renoncer à leurs ambitions et mettre fin à leurs actions agressives contre notre peuple et notre cause, se conformer au droit international et mettre en œuvre l'initiative de paix arabe ainsi qu'un cessez-le-feu immédiat et durable et le retrait de la bande de Gaza, a-t-il ajouté. Condamnation rapide, envoi de policiers spécialisés. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a promis une réponse ferme pour mettre un coup d'arrêt aux violences d'extrême droite qui se sont propagées à travers le Royaume-Uni pendant le week-end et ont donné lieu à 2 nouveaux incidents lundi soir. Une semaine après l'attaque au couteau qui a coûté la vie à 3 fillettes dans le nord-ouest de l'Angleterre sur fond de spéculation sur l'origine du suspect, le pays est confronté à ses pires émeutes depuis 13 ans. Ces derniers jours, des hôtels hébergeant des demandeurs d'asile ou des mosquées ont été prises pour cible, des commerces ont été pillés. Au moins 109 personnes ont été tuées lors de violents affrontements qui ont secoué le Bangladesh lundi, jour marqué par la fuite à l'étranger de la première ministre, ont indiqué la police et les médecins. Il s'agit de la journée la plus meurtrière depuis le début des manifestations contre les quotas d'embauche dans l'administration début juillet, avec un nombre total de morts s'élevant à 409, d'après un bilan établi à partir des données de la police, de sources officielles et hospitalières. Toujours au Bangladesh, le chef de file du principal mouvement à l'origine de ces manifestations souhaite voir le prix Nobel de la paix, Muhammad Yunus, diriger le gouvernement intérimaire, au lendemain de la prise de contrôle du pays par l'armée et la fuite à l'étranger donc de la première ministre. Nous souhaitons que le gouvernement intérimaire se réforme avec, en tant que conseiller principal, c'est-à-dire chef de celui-ci, le lauréat du prix Nobel, le docteur Muhammad Yunus, qui jouit d'une renommée internationale et est largement reconnu, a déclaré dans une vidéo Naïd Islam, principal dirigeant du collectif étudiant contre la discrimination. Le chef de l'ONU et les puissances occidentales ont appelé lundi au calme et à une transition démocratique au Bangladesh. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé une transition pacifique, ordonnée et démocratique. C'était tout pour les nouvelles. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Maintenant, notre journal des JO qui se poursuivent à Paris et où l'Afrique a connu hier des moments de gloire et de déception. Alors que les équipes africaines de football ont été éliminées des finales, le Maroc et l'Égypte ayant cédé respectivement face à l'Espagne et à la France, le continent a brillé ailleurs. En athlétisme, les athlètes africains ont marqué les esprits, notamment Béatrice Chiebe du Kenya, a remporté l'or sur 5000 mètres. Découvrons ensemble les hauts et les bas de cette participation africaine avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal des Jeux Olympiques qui se poursuivent en France. Aujourd'hui, c'est le jour 11 de ces JO Paris 2024. Dans le tournoi de football masculin, il n'y aura pas d'équipe africaine en finale. Le Maroc et l'Égypte ont été stoppés en demi-finale par l'Espagne et la France qui vont s'affronter vendredi pour la médaille d'or. Après avoir mené 1-0, les Égyptiens ont plié les Chines face aux Français 3-1. Après prolongation en demi-finale donc, dans l'autre demi, les Marocains se sont inclinés 2-1 devant les jeunes Espagnols au stade Vélodrome où se trouvait notre consultant Amine Bir.
Ce qui s'est passé, c'est que l'équipe du Maroc n'a pas été efficace dans les deux surfaces. Elle a pourtant mené au score, elle a enflammé le public avec de nombreuses occasions. Il y a eu ce pénalty transformé par Soufia Rahimi à la 35e minute. De nombreuses occasions en début de seconde mi-temps, mais les joueurs marocains n'ont pas été assez tueurs. Et surtout, le coaching espagnol a été déterminant toute fin de rencontre. Deux moments de relâchement coupables ont permis aux Espagnols, une première fois, de revenir à hauteur par Fermi, de creuser un peu cette équipe du Maroc qui se voyait plus proche de la finale que son homologue ibérique grâce aux défenseurs de Valence, Juan Lou.
Justement, Amine Birouk, on reste avec vous. C'est en France, il y a beaucoup de ressortissants marocains dans ce pays-là. Dites-nous quel est le sentiment de ces nombreux supporters qui étaient du côté du stade du Vélodrome.
Il y a de l'enthousiasme mais de l'euphorie pendant le match. Un brin de déception après le coup de sifflet final et puis certainement beaucoup, beaucoup de fierté. Parce qu'ils ont vu une équipe qui les a fait vibrer depuis le début du tournoi avec des victoires face à l'Argentine, devant l'Irak en quart de finale au Parc des Princes vendredi dernier face aux États-Unis. Et puis des gens qui sont venus de tous les pays d'Europe, de toutes les régions de France pour pouvoir pousser derrière leur lion de l'Atlas. On a visité quasiment tous les terrains mythiques de France. On a eu Geoffroy Guichard, le stade de l'Épopée des Verts, on a eu le Parc des Princes, on a eu aujourd'hui le mythique Vélodrome. On ira chez les Canaries de Nantes.
Merci Amine Bir. L'Afrique a par contre réussi à s'imposer en athlétisme hier. La recordwoman du monde kenyan du 10 000 mètres, Béatrice Chiebe, a été sacrée championne olympique du 5 000 mètres en 14 minutes 28 secondes 56 devant la néerlandaise Sivan Hassan au terme d'une course folle. Chiebe, deux fois médaillée mondiale, mais jamais aux JO, remporte ainsi son premier titre olympique. Initialement deuxième, la Kenyane double championne olympique du 1500 mètres, Faith Kipyegon, a été disqualifiée pour obstruction. Selon les résultats officiels, à 800 mètres de l'arrivée, elle s'est bousculée avec l'Éthiopienne Goudaf Tseggei, finalement huitième. Kipyegon a traversé en pleurs la zone mixte. Tseggei et Kipyegon sont finalement toutes les deux alignées pour le 1500 mètres plus tard cette semaine. Chiebe prendra elle part aux 10 000 mètres. Pour ce qui est du 800 mètres, la Britannique Kelly Hodgkinson, grande favorite, a remporté son premier titre olympique en 1 minute 56 secondes 72. Elle a devancé l'Éthiopienne Tsige Duguma et la Kenyane Marie Mora. Toujours pour le compte de la journée d'hier, après 3 médailles d'or en autant d'épreuves, l'Américaine Simone Biles a montré qu'elle aussi pouvait échouer. Pour son dernier jour de compétition à Paris, la superstar de la gymnastique n'est pas parvenue à aller chercher l'or. devant se contenter de l'argent au sol et de la cinquième place à la poutre. Simone Biles quitte les Jeux de Paris avec 4 nouvelles médailles olympiques, dont 3 titres. Autre prestation XXL, celle du perchiste suédois Armand Duplantis, ultra favori du concours de perche. Il a conservé son titre olympique et surtout l'a assorti d'un nouveau record du monde à 6,25 mètres à Paris. Ce mardi, grosse affiche en basketball féminin. En quart de finale, le Nigeria fait face aux tenantes du titre, les Américaines. En basketball masculin, les quarts de finale opposent les États-Unis au Brésil et la France fait face au Canada. Dans la finale du 200 mètres féminin, la Nigériane Favour Ofili devra se méfier de la Saint-Lucienne Julien Alfred, déjà vainqueur du 100 mètres. À suivre aussi les finales hommes et dames du 1500 mètres. Avant de refermer cette fenêtre consacrée aux JO, sachez que le comité olympique algérien a accusé l'Association internationale de boxe de déclarations sans fondement après que l'IBA a affirmé hier qu'une boxeuse algérienne en demi-finale de la compétition féminine de Paris était un homme, Iman Khelif, et la Taïwanaise Lin Yuting sont dans l'œil du cyclone depuis qu'il est apparu qu'elles avaient été disqualifiées des championnats du monde 2023 de l'IBA pour avoir échoué à des tests d'éligibilité de genre. Le CIO a autorisé les deux boxeuses à combattre et toutes deux sont en demi-finale, ce qui leur garantit une médaille. Voilà, c'est tout pour ce journal des JO de ce mardi 5 août 2024.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Salani de retour pour notre section magazine. L'armée américaine a fermé lundi sa dernière base au Niger, à Agadez, conformément aux exigences du régime militaire au pouvoir dans ce pays en proie à des violences djihadistes. Reportage de notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Un avion militaire de type C-17 Globemaster III décollant de la piste de la base aérienne 201 d'Agadez ce lundi 5 août dans l'après-midi. Les forces américaines ferment ainsi leur dernière enceinte au Niger. Colonel-major Mamansani Thiaou, chef d'état-major de l'armée de terre du Niger.
La fermeture de l'enceinte américaine de cette base marque la conclusion d'une opération de désengagement menée de manière sécurisée, ordonnée et responsable. Le ministère de la Défense nationale de la République du Niger et le département de la Défense des États-Unis d'Amérique expriment leur reconnaissance pour les sacrifices et le dévouement des forces armées des deux pays.
Initialement prévu à la mi-septembre, la fin de ce désengagement des soldats américains du territoire nigérien aura donc été avancée, de quoi satisfaire les structures qui se sont mobilisées pour la matérialisation de ce départ. Abdoulaye Seydou, coordonnateur du mouvement M62.
Notre mouvement, le M62, avait justement décidé d'accompagner et de soutenir la décision des autorités nigériennes, n'est-ce pas, demandant également, après celle des Français, le départ des forces américaines.
Les soldats américains s'en vont ainsi donc comme exigés par les autorités nigériennes. Pour autant, n'avaient-ils pas aidé dans la lutte contre les groupes djihadistes? Abdoulaye Seydou du mouvement M62.
Nous avons acquis des matériels avec eux-mêmes, les C-130 avec eux pour les armes, mais les résultats sont mitigés. C'est des résultats mitigés, il faut le dire. Et le comportement des États-Unis après le coup d'État sur le plan sécuritaire n'était pas le comportement approprié.
Les États-Unis d'Amérique et le Niger s'engagent à maintenir le contact et à travailler ensemble pour définir les bases d'une nouvelle coopération militaire, souligne le communiqué conjoint signé entre les deux parties. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h/24.
Le Mali a rompu avec effet immédiat ses relations diplomatiques avec l'Ukraine à la suite des propos d'un porte-parole de l'Agence ukrainienne de renseignement militaire sur les combats dans le nord du Mali qui ont causé de lourdes pertes dans les rangs des soldats maliens et des combattants de Wagner à la fin du mois de juillet. Pour une analyse de cette nouvelle donne dans ce conflit, Jean-Roger Bion a joint à Bamako l'analyste Issa Diawara.
Je n'ai pas justifié comment l'Ukraine s'introduit dans ce conflit. Il faudrait simplement voir le communiqué avancé par l'Ukraine qui, bien sûr, annonce appuyer les touristes en termes de renseignements et dans le cadre, bien sûr, de cette opération. Et de l'autre côté, le Mali dit rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine à la suite des déclarations faites par l'Ukraine elle-même. Donc, c'est dans ce contexte qu'il faudrait situer cette rupture diplomatique entre le Mali et l'Ukraine.
Alors, est-ce que l'ouverture d'un conflit diplomatique avec l'Ukraine en ce moment ne va pas compliquer les difficultés du Mali qui déjà est en butte aux attaques djihadistes?
Je pense qu'il faudrait voir ça aussi beaucoup plus sous un angle global, c'est-à-dire pas que qu'est-ce que le Mali y perd. C'est-à-dire, concrètement, le Mali est déjà dans une lutte contre le terrorisme depuis la chute du régime libyen. Le Mali, ça fait plus de 10 ans que le Mali fait face à ce terrorisme. Maintenant, est-ce l'apport des Ukrainiens au terrorisme? Cela va compliquer davantage la donne pour le Mali. Si nous fions au communiqué des autorités du Mali, sans doute le Mali dû prendre des mesures, avoir tiré des leçons, et donc essayer de s'adapter, être à la hauteur des menaces présentes. Mais de l'autre côté aussi, il faudrait voir l'Ukraine qui aujourd'hui est en train de s'implanter davantage en Afrique. Hein. Il ne faut pas perdre de vue que le Mali, c'est un pays fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine. Donc le Mali a beaucoup d'alliés au niveau de l'Afrique. Est-ce aujourd'hui que l'Ukraine revendique publiquement une attaque terroriste contre le Mali va faciliter l'implantation de l'Ukraine en Afrique Est. Cela va donner une bonne image à l'Ukraine au niveau de l'Afrique. Je ne pense pas beaucoup.
Alors comment la présence présumée donc de l'Ukraine dans la région va influencer les équilibres régionaux?
Ce n'est plus une présence présumée parce que les officiels ukrainiens confirment bien sûr qu'ils sont présents dans la région et qu'ils ont participé à cette opération. Mais qu'est-ce que cela va faire dans la région? Ça dépend de la politique au niveau régional. Quand on parle d'une présence, si c'était au niveau d'un seul pays, ça serait peut-être au Mali ou bien au pays en question de voir quelle est la réponse appropriée qu'il faudrait apporter. Mais s'il s'agit de la région, ici au niveau de la région, il y a plusieurs organisations. Notamment, nous avons par exemple l'Alliance des États du Sahel, qui est dorénavant une confédération, quelle serait la réponse de cette confédération par rapport à cette menace nouvelle? Aussi, c'est au niveau beaucoup plus élargi, au-delà même des pays de l'Est, si cela touche directement les pays de la CEDAW, c'est à la CEDAW de voir comment répondre, comment être à la hauteur de cette menace revendiquée et présentée par les autorités ukrainiennes de façon très officielle. Et si cela s'étend au niveau africain, je pense que l'Union africaine doit pouvoir apporter des réponses adéquates. Ne pas apporter des réponses adéquates, c'est tout simplement subir de plein fouet cette nouvelle menace qui avance pas à visage caché mais bien sûr à visage découvert.
C'était Issa Diawara, analyste géopolitique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Des membres du collectif des ressortissants maliens en Côte d'Ivoire se sont réunis dimanche à Abidjan pour exprimer leur inquiétude à l'approche de la sortie effective du Mali de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui doit intervenir en janvier prochain. Le récit d'Abdourahmane Dia.
Près de 3 millions de Maliens vivent et travaillent en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'entre eux se disent très inquiets de leur situation si la décision de Bamako devenait réalité dans quelques mois. Le président du collectif Amadou Kodjo ne souhaite pas que le Mali quitte la CEDEAO. Il estime que les conséquences sur la communauté malienne seraient lourdes.
Si nous quittons la CEDEAO, nous qui vivons de la poussée des charrettes, nous qui travaillons dans la sécurité, comment allons-nous obtenir un permis de séjour qui coûte entre 400 et 500 000 francs CFA? De quoi allons-nous vivre et qu'allons-nous envoyer à nos familles restées au pays? C'est pour dénoncer cela que je suis ici.
Les autorités maliennes ainsi que leurs homologues burkinabés et nigériens avec qui elles ont formé l'Alliance des États du Sahel ont déjà dit que leur décision de se retirer de l'organisation régionale était irréversible. Mais Sekou Maïga, porte-parole du collectif, s'inquiète du sort de ses compatriotes vivant en Côte d'Ivoire.
Les Maliens de la diaspora sont très importants dans l'économie malienne. Donc si aujourd'hui ils se retirent, que deviendrait la diaspora? C'est la question que nous, on se pose en tant que Maliens vivant à l'étranger.
Cette commerçante Awabamba ne désespère pas de voir le Mali et la CEDEAO arriver à un compromis.
L'histoire de CEDEAO, nous, ça nous fatigue. On est commerçant, donc nous, ça nous fatigue. S'ils peuvent voir, ils vont revoir les affaires de CEDEAO, nous, ça nous arrange, les commerçants là.
Alors que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont passés à la vitesse supérieure en mettant en place une confédération, La CEDEAO a désigné le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye facilitateur dans les discussions avec les trois pays.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, le cessez-le-feu signé la semaine dernière à Luanda en Angola entre Kigali et Kinshasa, censé être observé depuis hier, ne tient pas. Les rebelles du M23 ont encore pris le contrôle de quelques localités. Eddy Issango a joint dans la région le député Eze Kanindou.
Il est vraiment aberrant de constater, après l'accord entre le Rwanda et la RDC pour faire les armes, on voit les éléments M23 commencer encore à attaquer les positions des Wazalendo et les positions des FRDC pour conquérir plusieurs villages dans les territoires de Rutshuru, notamment à Katwiguru, Kisebourou, Nyamilima et Ichasa. Et actuellement, ils sont en train de progresser vers les villages lacustres de Nyakakoma. C'est vraiment honteux pour le Rwanda qui a signé pour l'accord M23, mais qui ne respecte pas ses engagements.
Comment se passe cette prise de contrôle? Est-ce que c'est avec combat ou sans combat? Parce que nous apprenons qu'il y a des positions qui ont été prises sans combat.
Non, il y a eu des combats, il y a eu des affrontements entre les éléments M23 et les Wazalendo, parce qu'effectivement, dans cette contrée, il n'y avait pas assez d'éléments de FRDC, mais il y avait des éléments Wazalendo. Alors, lorsque les éléments Wazalendo ont été à rupture de munitions, ils ont essayé de replier pour aller se concentrer et voir s'ils peuvent aussi encore faire des assauts. Donc, en tout cas, il n'y a pas d'accalmie. On observe un accalmie précaire dans toutes ces contrées parce que les Wazalendo et les éléments M23 ne sont pas encore dans les barrages.
Que doit-on dire? Le cessez-le-feu est censé entrer en vigueur, mais les combats se poursuivent. Comment va-t-il être mis en application? Qu'est-ce qui empêche?
La mise en application du cessez-le-feu devrait d'abord commencer par identifier les zones tambours et créer un mécanisme qui va superviser ces zones tambours. Parce que jusqu'à présent, il y a certains endroits où les éléments FRDC, les éléments du M23 sont à quelques 700 mètres seulement. Donc, si il n'y a pas une force neutre qui peut s'interposer au milieu des éléments FRDC et au milieu des éléments du M23, en tout cas, le cessez-le-feu sera toujours violé. C'est pourquoi nous aurons voulu qu'on puisse, comme à territoire de Lubero, qu'on puisse installer d'abord une force régionale comme la SADC et la MONUSCO pour essayer de s'interposer entre les deux belligérants.
Le cessez-le-feu a été signé entre Kinshasa et Kigali. Maintenant, c'est les rebelles du M23 qui sont sur le terrain et qui continuent à avancer. Pensez-vous qu'ils soient, eux, concernés par les cessez-le-feu qui n'ont pas signé?
Les M23 sont censés respecter le cessez-le-feu parce que lorsque Kigali a signé ce cessez-le-feu, il n'a pas dit qu'il n'est pas l'autorité qui est censée de signer le cessez-le-feu pour le compte du M23.
C'était Eze Kanindou, député et notable de la région de Lubero, dans l'est de la RDC.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations, influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Ainsi que nous concluons cette édition du Monde aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez à l'écoute pour plus d'informations et d'analyses sur VOA Afrique. Au micro, Nanit Salami, à la réalisation Michel Joseph, à la technique Kelvin Fowler. Pour rester informé en temps réel, rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et suivez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, YouTube, X et Instagram. Au nom de toute l'équipe de la VOA, je vous souhaite une excellente journée.